France Culture.
France Culture, la fabrique de l'information, François Seltiel.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la fabrique de l'information, le rendez-vous de France Culture consacré au décryptage du travail journalistique et à l'analyse des récits médiatiques. Après le métier de photo-reporter, celui de caricaturiste de presse, nous nous intéressons aujourd'hui aux osinteurs, soit des journalistes qui pratiquent au quotidien l'osint, en français la recherche en source ouverte. Ces investigations sont principalement menées sur le cyberespace afin d'enquêter dans les zones empêchées, des territoires en guerre, au pays soumis à un contrôle strict de l'information. L'osint, ce n'est pas que cela et il sera intéressant d'en comprendre les larges contours tout en revenant sur ses origines. Depuis quelques années, la pratique se déploie dans les rédactions internationales comme en France où les médias investissent dans ce genre qui fait de la transparence un impératif méthodologique. Une occasion pour eux de mieux expliquer leur métier et de préserver ou de rétablir le lien de confiance avec le public. Nous essaierons au travers d'exemples précis de mieux comprendre les outils employés et de questionner leurs limites, surtout sur les terrain en guerre où l'information est plus que jamais une arme. À l'heure de la prolifération de l'intelligence artificielle générative en mesure de falsifier les données, à l'émergence d'acteurs de la déstabilisation qui reprennent les codes de l'osint pour propager leur narratif, nous verrons dans quelle mesure la pratique est menacée, si son âge d'or est dépassé et comment il doit se réinventer. Quatre invités pour en parler. Alain Deneville, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférence en sciences de l'information et de la communication à l'université Bordeaux-Montaigne et auteur de Osint, enquête et démocratie qui vient de paraître aux éditions de l'INA. À vos côtés, Lise Lotmas, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste à la cellule enquête vidéo du journal Le Monde et présidente d'Open Facto, une association qui fédère les acteurs de l'Osint en France. Un autre journaliste en studio avec nous, Sylvain Pack, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes rédacteur en chef de Source, l'émission d'enquête journalistique à base d'osine que l'on peut voir sur arte.tv. Enfin, Hervé Le Toqueux complète ce plateau. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes l'ancien chef de la vision des opérations de Viginum. Viginum, c'est le service de vigilance et de protection contre les ingérences numériques étrangères. Et aujourd'hui, vous êtes chargé des opérations chez Check First, une société finlandaise spécialisée en osint. Enfin, comme chaque semaine, une chronique qui prolonge notre thématique venue de la rédaction de Courrier International, notre partenaire qui veille, sélectionne et traduit le meilleur de la presse étrangère. Sacha Mitchell sera avec nous tout à l'heure. Voilà le programme complet de l'épisode 17 de la Fabrique de l'information. Merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre et même au lendemain de Noël. Alors au nom de toute l'équipe, votre confiance reste le plus beau des cadeaux.
OSINT, donc c'est un acronyme anglais qui veut dire Open Source Intelligence, traduction renseignement de source ouverte.
Pour nous, c'est toutes les informations qui sont publiques, accessibles, très souvent via Internet. Et aujourd'hui, dans nos enquêtes, en fait, on utilise énormément de données qui sont non visuelles.
À distance et à travers cette pratique de l'osint, on a potentiellement un point de vue plus large en fait sur les événements.
On utilise des données satellitaires, on utilise des données douanières qui permettent de traquer le commerce international. C'est juste un puits sans fond d'informations qui me semble difficile d'écarter et de ne pas prendre en compte quand on veut faire du journalisme.
On est en février 2021. Depuis quelques semaines en Birmanie, des affrontements opposent la junte militaire birmane, qui a pris le pouvoir lors d'un coup d'État, et la population civile. À partir de quelques mots-clés, en anglais et en birman, on tombe très vite sur des dizaines de photos et vidéos qui documentent ces événements.
Et leur principal outil, c'est ça, un bulldozer modèle D9. Pour comprendre son rôle dans la destruction massive de l'enclave, Le Monde a analysé des dizaines de vidéos, des images satellites de la bande de Gaza.
L'idée, c'est de savoir où et quand toutes ces images ont été prises. D'abord pour s'assurer qu'elles sont fiables, et ensuite pour mieux comprendre ce qu'elles nous montrent.
Alors c'est assez intéressant, tu as certaines puissances étrangères qui ont envoyé des fausses informations à fact-checker à des analystes OSINT.
Pour les intoxiquer.
Bah pas pour les intoxiquer, mais plus pour leur faire perdre du temps pour pas qu'ils regardent d'autres thématiques.
Alors, on va essayer de comprendre un peu mieux avec vous tous l'osint. Je suis sûr que, en ce moment même, beaucoup de nos auditeurs et auditrices découvrent ce terme, même si on en parle de plus en plus. On va peut-être commencer avec vous, Lise Lotmas. Est-ce qu'on peut dire que l'une des missions de l'osint consiste en premier lieu à mener des investigations en ligne pour naviguer, explorer là où la présence physique est empêchée?
Oui, je pense que c'est une bonne façon de résumer les choses. En tout cas, dans les enquêtes dites en source ouverte, on s'appuie sur tout un corpus qui est donc librement accessible. Aujourd'hui, évidemment, ça recouvre principalement ce qui est disponible sur Internet. Et l'idée ensuite, c'est de construire à partir de ce matériau, et pas uniquement ce matériau, mais disons principalement des investigations qui permettent de révéler des informations nouvelles.
Donc on peut dire que principalement un OSINTer, le gros de son travail, il le passe derrière son écran ou derrière un écran, même si ça ne l'empêche pas de se déplacer pour aller corroborer et confirmer des informations, mais c'est plutôt un travail d'investigation à distance, peut-être via justement le cyberespace, l'espace numérique.
Oui, je pense qu'on passe effectivement peut-être un peu plus de temps derrière notre ordinateur que des reporters et des journalistes, disons, plus traditionnels. Après, effectivement, on va aussi passer beaucoup de temps au téléphone, à essayer d'obtenir des contacts, récolter des témoignages, ce genre de choses. Mais oui, en tout cas, le cœur de nos investigations, il a lieu sur l'ordinateur.
Alain de Neuville, vous avez consacré un ouvrage sur la question de l'OSINT. À quelle période on peut dire que cette technique ou cette pratique s'est formalisée ?
Ça dépend de où on parle. Si on parle, par exemple, des services de renseignement, ça va être dans l'entre-deux-guerres. 1939, la BBC va inventer un service qui s'appelle le Monitoring Service. En 41, ce sera les États-Unis qui feront un service un peu similaire. Si on parle du journalisme, peut-être qu'Hervé, Liselotte et Sylvain me reprendront, mais je pense que c'est au tournant des années 2010 et principalement avec deux événements. Le premier sera la guerre en Syrie, qui va être un terrain où vont se former énormément d'OSINTers. Et ensuite, quelque chose qui a été une enquête qui a vraiment marqué le champ, qui est l'enquête de Bellingcat sur le crash de l'avion MH17.
Bellingcat, vous pouvez nous dire ce que c'est peut-être ? C'est pas tout à fait un média, c'est une ONG. Enfin, définissez-nous ce que c'est que Bellingcat.
Donc, Bellingcat, c'est un groupe slash média slash ONG qui fait des enquêtes en sources ouvertes, qui est vraiment très important dans l'écosystème d'OSINT, mais surtout qui a proposé énormément de formations à l'OSINT. Et beaucoup de journalistes qu'on voit aujourd'hui dans les rédactions sont passés par des formations de Bellingcat. Le cas de l'avion MH17, donc pour remettre un peu dans le contexte, on est en 2014, un avion qui part de Malaisie pour aller aux Pays-Bas se crash au-dessus de l'Ukraine. À l'époque, tout le monde se dit un peu... Il y a de fortes chances que ça vienne des Russes. Et personne n'arrive à vraiment le prouver. Donc, d'ailleurs, si on fait une enquête OSINT sur les résultats de comment on a interprété le crash à ces toutes premières heures, on voit qu'il y a beaucoup de pincettes qui sont prises. Bellingcat va faire une enquête, va investiguer les réseaux sociaux des forums de Smer de Soda Russe, va faire de l'investigation à partir des données satellites, des cartes, et vont réussir à trouver qu'il y a un char russe qui tire un missile plus ou moins là où ça aurait pu intercepter l'avion. Ils vont réussir à trouver qui était dans le char, donc quelle division de soldats russes était dedans. Donc ça, il me semble que la guerre en Syrie et le crash du MH17 et l'enquête qu'on a suivie par Bellingcat ont vraiment marqué un tournant dans la formalisation de l'OSINT dans le milieu journalistique.
Bellingcat, donc organisation britannique ?
Britannique, créée par Elliot Higgins.
Donc on voit une organisation britannique avec Bellingcat. Vous avez cité le renseignement dans les années 40 avec la BBC. Est-ce qu'il faut comprendre, Hervé Le Toqueux, que c'est un genre qui s'est principalement développé dans le monde anglo-saxon ?
Oui, bien sûr. Enfin, historiquement, la scène OSINT anglophone, elle a été toujours très active. Ils ont été un peu les précurseurs de tout ça. On l'a vu d'ailleurs sur les réseaux Twitter au début des années 90, avec exactement ce que décrit Alan. Je pousserai jusqu'au printemps arabe, plus généralement, pour positionner ces débuts-là, avec toujours Elliot Higgins et son blog Brown Moses, qui a réussi à fédérer sur le réseau Twitter un ensemble de participants qui se sont accordés avec lui, des experts en armes, des experts en géolocalisation. Il a réussi, lui, ça a été le premier à fédérer un petit peu cette scène anglophone. Et effectivement, la scène américaine, la scène néerlandaise, la scène anglaise ont été vraiment les précurseurs de ça. Et derrière, on a réussi en France et d'une manière générale dans l'espace francophone, un peu plus tard, à développer également ses compétences.
Voilà. Printemps arabe, hein, 2010-2011, Tunisie, Égypte, des mobilisations qu'on a qualifiées de mobilisations nées sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, il y a peut-être aussi un narratif de ces réseaux sociaux de l'époque qui se sont un peu octroyés cette contestation qui est née dans la rue. Mais là, à cet endroit, les réseaux sociaux ont joué un rôle déterminant. Donc c'est sans doute aussi en parallèle avec ces techniques d'OSINT, puisque les réseaux sociaux font partie des outils et des sources que vous exploitez
oui,
en tant qu'OSINTer.
Exactement, ça va de pair aussi avec l'apparition des smartphones, avec le fait que tout tout un chacun pouvait devenir le reporter de sa propre vie, des événements qui se passaient sur place.
Voilà, tous médias, les smartphones, on rappelle, hein, ça, il y a seulement 20 ans, hein, 2007, l'arrivée de l'iPhone, donc on est vraiment dans ces années-là. Alain de Neuville, vous souhaitiez rajouter quelque chose ?
Oui, et sur le côté de l'importance de la scène anglophone, il me semble d'ailleurs très intéressant de constater qu'en français, on parle d'OSINT, alors qu'il y a un acronyme français qui existe, qui s'appelle ROSO.
Roseau. On entend moins, il faut bien le dire.
Renseignement d'origine source ouverte. En général, si vous l'entendez, ce sont des personnes qui travaillent dans le renseignement, donc de la DGSE, de la DGSI. Mais c'est assez intéressant et moi, il me semble très important de voir que cet acronyme anglais, il a été incorporé à des dynamiques qui ne sont pas que celles du renseignement. Et donc, ce n'est pas anodin qu'on utilise OSINT en français et pas ROSO.
Voilà, OSINT, ROSO, on continue à explorer les racines de l'OSINT avec vous, Sylvain Pack. Pour Hervé Le Toque l'a dit, en France, le genre est arrivé, il y a des médias qui se sont emparés, on a entendu quelques extraits du Monde, de Source aussi, qui est la première émission de télévision en France, de télévision, première émission, parce que vous êtes diffusé sur le site d'Arte aujourd'hui.
Oui, sur la plateforme d'Arte.
Tout sur YouTube. Et sur YouTube. Quels sont justement les... Pour bien comprendre les outils qui sont utilisés, employés dans le cadre de vos enquêtes, vous en faites au moins une par mois.
On en fait une par mois, c'est très varié. Nous, on travaille beaucoup sur les réseaux sociaux, effectivement. Enfin, beaucoup d'enquêtes aujourd'hui utilisent les réseaux sociaux, Telegram, parce qu'il se passe beaucoup de choses sur Telegram, pas toujours des très belles choses. Tout ce qui concerne, nous, on fait beaucoup d'enquêtes. Alors, on a une émission qui est un peu magazine, c'est-à-dire qu'on ne va pas traiter des sujets très chauds, comme Le Monde va le faire, parce qu'on a des délais notamment de fabrication et de publication qui font qu'on est obligé de voir assez à long terme, donc il y a beaucoup de sujets qu'on ne va pas aborder, donc on est sur des problématiques plus froides. Donc beaucoup de sujets, par exemple, sur les trafics, parce qu'aujourd'hui, en fait, tout ce qui est trafic passe par les réseaux, passe par TikTok, passe par Telegram. Et en fait, c'est une mine avec des choses trappes qu'il faut essayer de déjouer. De l'analyse d'images satellites, mais qu'on va faire moins que Le Monde, parce que nous, on est moins sur de la géolocalisation, du fact-checking, on va venir utiliser plus en appui, d'une info qu'on va avoir pour vérifier que, par exemple, un trafiquant nous dit bien qu'il est là où il est. Mmh. Parce que, par exemple, quand on fait une enquête sur un trafic, que ce soit un trafic de bois, on l'a fait, ou on a fait le contournement des sanctions contre la Russie pour la guerre en Ukraine, donc on a enquêté sur des trafiquants, on va dire des Russes qui importaient des automobiles de luxe de l'Allemagne vers la Russie, ce qui est interdit parce que c'est sous sanction au-dessus de 50 000 euros. Et vous savez jamais si, en fait, la personne que vous trouvez sur les réseaux, en vrai, est-ce qu'il vraiment, il fait venir des voitures jusqu'en Russie, ou est-ce que finalement, il serait pas un peu un escroc et puis il prend l'argent et il fait rien? Ça, c'est toujours nous la question qu'on se pose. Donc, il publie des photos des voitures qu'il a prises depuis l'Allemagne. On les retrouve sur un port en Turquie. Il dit que c'est en Turquie et ensuite il dit qu'elle est bien arrivée à Moscou. Et nous, on va utiliser, par exemple, toutes ces images qu'il publie, qu'on va confronter avec des images satellites pour vérifier que, quand il dit que la voiture, elle est sur un port en Turquie, oui, il y a des éléments qui laissent penser parce que, au fond, on voit que le camion, effectivement, il y a deux camions avec deux transporteurs turcs. Et à Moscou, on arrive à géolocaliser l'endroit où est arrivée cette voiture. On voit que c'est la même voiture avec, on prend, une enseigne de magasin, une antenne relais.
On peut le voir dans Source, effectivement, qu'il y a une grande exigence pour arriver à corroborer les sources en utilisant une grande analyse de l'image et des images variées. Vous ne vous basez pas uniquement sur un point de géolocalisation.
Non, il faut qu'il y en ait plusieurs. Il y en ait plusieurs à chaque fois.
Avec, on y reviendra, mais bien sûr, la méthodologie, le process en fait, de l'enquête qui est très bien expliqué auprès du public. Ça fait partie aussi de l'ADN, on va dire, des OSINTeurs. Peut-être que le public est maintenant plus connaisseur du terme fact-checking que l'on renvoie, c'est-à-dire la vérification d'images. Les autres masses, en quoi justement l'OSINT se distingue du fact-checking?
Alors, je dirais que le fact-checking et les investigations d'OSINT peuvent, à certains endroits, utiliser ou mobiliser les mêmes outils. Mais en fait, la différence se situe principalement sur la démarche, c'est-à-dire que les fact-checkers, ils vont venir réagir à une rumeur qui va circuler sur les réseaux sociaux et ensuite tenter de démêler le vrai du faux sur cette rumeur. Là où un enquêteur, en source ouverte, un enquêteur OSINT, va choisir un angle, choisir un sujet et le creuser, le documenter, faire une enquête dessus. Donc c'est une démarche qui est un petit peu différente et qui se place aussi, je pense, dans la plupart du temps, sur du long terme, là où le fact-checking peut être une réaction assez rapide à une rumeur qui circule.
Ouais, donc le fact-checking est plutôt en réaction, tandis que les OSINT, vont créer en fait un reportage, créer de l'actualité, créer une ressource. Alan ?
Moi, je pense que beaucoup de fact-checking se fait en OSINT. En fait, on vous donne une image, on vous dit « Ah, cette image, elle a été prise à Gaza ». Vous faites une petite enquête OSINT et vous vous rendez compte, en fait, elle a été prise en Syrie. Donc, on peut faire beaucoup de fact-checking, je pense, avec de l'OSINT. Je pense qu'il y a deux types d'OSINT. Un OSINT qui va être dans la réaction, qui en gros est du fact-checking, et un OSINT d'investigation, et ce que fait Liselotte, et ce que fait énormément de journalistes. Mais ça reste de l'OSINT. Je pense qu'il faut pas forcément faire une distinction, parce que l'OSINT, c'est pas un type d'enquête en particulier, c'est une méthodologie.
C'est des outils, c'est vrai que sur la question des violences policières, par exemple, que vous avez traité au Monde, on est un peu au croisement des deux.
Oui, c'est vrai que bon, après tout ça, c'est des débats sur les termes. C'est vrai que les méthodes d'enquête en source ouverte, ils s'appliquent à plein de champs, le fact-checking, l'investigation. Et dans un certain sens, quand on fait une enquête en source ouverte, une investigation, bah, on va sans cesse vérifier les différents éléments qu'on apporte à notre collection d'images, de documents vérifiés. C'est juste que je pense que dans la tête des auditeurs, le fact-checking, c'est vraiment répondre aux rumeurs qui circulent sur Internet. Là où les investigations, c'est un peu une démarche différente.
Alors, on parle depuis le début de sources ouvertes, Alain de Neuville. Néanmoins, est-ce que pour concevoir ces enquêtes, est-ce que ces sources sont toujours ouvertes ? C'est-à-dire que, est-ce que ces sources sont toujours à disponibilité et il suffit juste d'avoir les bons chemins pour arriver à les trouver ? Ou parfois, ce qu'on entend par sources ouvertes, ça peut être aussi des sources qui des fuites, des transmissions d'informations avec des documents internes. Enfin, qu'est-ce qu'on entend par sources ouvertes ?
Je vais reprendre ce qu'a dit un grand homme, Hervé Le Toqueux. Les sources ouvertes, c'est tout ce que ma grand-mère peut trouver sur Internet. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. En fait, les sources ouvertes, elles sont très larges. D'une, elles ne se réduisent pas au numérique. Vous faites une demande CADA, donc les documents administratifs. Vous n'êtes pas forcément en numérique et vous êtes en sources ouvertes. Vous allez travailler dans des archives, les archives de l'INA, les archives municipales. Vous êtes dans des sources ouvertes. Ce qui me semble important, c'est de ne pas mélanger. Et justement, je pense que ça revient à ce que Liselotte disait tout à l'heure, en disant il y a les investigateurs aux INT, on imagine que c'est quelque chose. Oui, il y a des investigations aux INT et ils peuvent avoir recours à d'autres types de données. Et en fait, ça ne veut pas dire que les types de données font encore de l'OSINT, c'est juste qu'il y a une hybridation des sources fermées, des sources ouvertes pour mener à une investigation. Ensuite, là où il y a peut-être quelque chose, où il y a un achoppement dans la communauté OSINT, ça va être sur la question de la légalité. Ce qui est, il y a des sources qui sont légales en France, qui ne sont pas légales si vous êtes un OSINTer en Russie, par exemple. Donc la question de la légalité, est-ce que les sources ouvertes sont forcément légales ? Et le deuxième achoppement, c'est sur la question de la gratuité. Est-ce que toutes les sources ouvertes doivent être gratuites ou est-ce qu'il y a des sources ouvertes que je dois payer ? Et alors, ça reste quand même des sources ouvertes. On peut penser aux images satellites, par exemple, où des fois, vous êtes obligé de payer. Donc pour moi, source ouverte, les deux points d'achoppement sera l'égalité et gratuité, mais en tout cas, il faut qu'elle soit ouverte. Sinon, on tombe dans des sources fermées, ce qui n'est pas plus mal, hein, ce qui n'est pas grave. Mais en tout cas, on n'est plus dans de l'OSINT et on est dans un autre type d'hybridation des enquêtes.
Sylvain, Pac.
Oui, moi, ce que je veux dire, c'est qu'en tout cas, nous, dans ce qu'on fait et dans l'investigation en général qui utilise l'OSINT, on n'utilise jamais que l'OSINT. Même si on peut avoir l'impression parfois qu'on n'utilise que l'OSINT. Il y a deux choses. Il y a les sources ouvertes où, une enquête, on va utiliser des sources ouvertes plus des sources fermées. On va appeler des gens qui vont nous donner des documents confidentiels, qui vont nous donner des infos, qui vont nous dire où chercher. Bon, ça, c'est des sources fermées. Ils nous parlent parce qu'on est journaliste. Mais même quand on fait une enquête qui paraît uniquement source ouverte, on ne fait que, par exemple, de l'analyse de réseaux sociaux, d'images, etc., en fait, c'est jamais 100% de source ouverte et ce serait dangereux. C'est-à-dire qu'on appelle toujours des gens spécialistes de la question, du secteur, qui nous répondent parce qu'on est journaliste, des ONG, des experts, des gens sur place à qui on dit « Attendez, expliquez-nous les sanctions russes, comment ça marche ?» Toujours pour avoir du contexte, pour comprendre. Si on faisait pas ça, qu'on se contentait, ou pour vérifier, autre chose, nous, dans ce qu'on fait aussi, c'est que, comme on fait des investigations, l'idée, c'est toujours de mettre en cause quelqu'un à la fin, c'est-à-dire une entreprise, un État, un réseau social, etc. Toutes nos trouvailles, on les confronte, donc il y a une vérification qui est faite par, en gros, la personne qu'on met en cause. On lui dit toujours, on a trouvé ça, on a compris ça, pour nous, on en tire telle conclusion, on va dire ça. Et comme ça, si on s'est trompé, la personne peut nous dire, vous êtes trompé, c'est faux. Donc ça fait une vérification. Pour l'instant, ça ne nous est pas arrivé. Enfin, ça nous est arrivé une fois, mais la personne nous avait menti, on ne s'était pas trompé, c'est elle qui nous avait menti.
Donc, la logique du contradictoire, et pour bien comprendre, vous employez toutes ces techniques-là, mais en ayant recours aux techniques classiques et traditionnelles du journalisme,
toujours,
témoignages,
toujours,
etc.
Toujours. Beaucoup de téléphones, comme disait Liselotte.
Et parfois même du déplacement sur le terrain pour arriver à corroborer des informations que vous avez pu trouver.
Alors nous, ça ne nous est pas arrivé, parce qu'on essaye justement, l'idée, c'est de quand même faire des enquêtes où c'est là où l'OSINT donne sa meilleure, enfin, je pense, donne ce qu'il a de mieux à donner, c'est d'aller là où on ne peut pas aller. Donc, c'est rare qu'on puisse le faire.
Hervé Le Toqueux.
La question s'est posée récemment dans le cadre d'un média reflet qui a eu utilisé pour un de ses articles des données qui provenaient d'un piratage informatique, par exemple. Mmh. Évidemment, ces données sont d'intérêt public et ils ont pu les utiliser. Alors, il y a eu une bataille juridique, évidemment, des personnes mises en cause, mais
c'était quoi le sujet
C'était un entrepreneur, on va dire ça comme ça, dont la société a été victime d'un piratage informatique et les pirates ont diffusé des morceaux de données, des bribes de données assez
des
conséquentes.
Des échantillons sur le Darknet pour justement faire un produit d'appel. C'est
donc comme les ça journalistes ont utilisé ces sources ouvertes qui étaient librement accessibles et je confirme ce que dit Alan, c'est plutôt ma mère, mais ma mère avait aussi accès à ce site internet, était capable de les télécharger. Les journalistes ont fait des articles sur ça et évidemment ça reste de la source ouverte à mon sens et à date, la jurisprudence elle est quand même assez constante, mais même s'il faut aller s'expliquer devant un tribunal, la notion d'intérêt public est très importante. Donc, encore une fois, si la donnée est accessible librement sur Internet, si on ne peut pas être accusé finalement d'avoir commis soi-même le piratage, d'avoir commis un acte malveillant, alors on peut utiliser ces données et c'est de la source ouverte.
Mmh. Lise Lotmat, peut-être pour bien comprendre, prenons un exemple concret d'une de vos récentes enquêtes pour voir comment vous avez déployé des outils d'Ozint, peut-être celle de la Gen Z au Maroc avec le cas de manifestants de la mort de manifestants. On sait très bien qu'au Maroc, c'est compliqué quand même d'enquêter. Il y a même une forme d'absence d'image du côté des médias officiels, on va dire. Comment vous avez procédé ?
Oui, alors cette enquête, donc pour rappeler les faits, il y a quelques mois maintenant, des manifestations Gen Z ont eu lieu au Maroc et dans une ville qui s'appelle Lekhlia, qui est située pas très loin d'Agadir, il y a 3 manifestants qui ont été tués par balle par les forces de l'ordre. Et en l'occurrence, dans le cadre de cette manifestation, il n'y avait pas du tout de médias locaux qui ont filmé ce qui s'est passé. Les seules images qui nous sont parvenues, c'est des petites bribes, des petits extraits filmés par des témoins, par des manifestants. Et donc là, tout le travail, ça a été d'essayer de comprendre comment ces 3 manifestants sont morts, à quel moment, où exactement. Donc on s'est basé principalement sur ces images amateurs qui ont été filmées, donc, comme je le disais, par des témoins. Et on a aussi confronté ça aux images de vidéosurveillance qui ont été produites par le procureur d'Agadir. Et donc c'est 4 minutes 50 d'extraits de vidéosurveillance sur au total 1 heure et demie de faits. Bien évidemment, ces vidéosurveillances ne montrent pas les moments où les policiers tirent, où on sait que le cœur des violences s'est produit. Et donc, ça a été tout un travail de recouper tous ces petits extraits de vidéos ensemble, faire une sorte de petit patchwork comme ça pour essayer de mieux comprendre ce qui s'est passé.
Voilà, donc on voit qu'il y avait une situation. L'Ozint a permis d'éclairer les choses. C'est pas toujours le cas, hein. Parfois, on a des situations complexes. Je pense notamment à ce qui a pu se passer à Gaza très rapidement après le 7 octobre, où il y a eu aussi des conflits, des querelles par rapport aux différents Ozinters.
Vous avez une synchronisation parfaite entre le visuel de l'explosion et le son. Or, on est normalement à quelques centaines de mètres, et donc on devrait avoir une demi-seconde de décalage. Donc il y a commencé à avoir des doutes sur cette vidéo, mais en tout cas, celle-là, elle nous montre un bombardement, très clairement, avec un système qui est propulsé, au moins jusqu'au sol. Là, c'est un missile qui a été tiré depuis le sud de la bande de Gaza, et qui va se désintégrer. Alors, est-ce qu'il a été intercepté? Est-ce qu'il y a un dysfonctionnement? On voit qu'il se désintègre, et donc il va tomber en plusieurs morceaux, a priori. Là, la caméra va descendre vers le bas, et on voit une première explosion, qui correspond certainement, par exemple, au système propulsif, et la deuxième explosion principale qui était à l'avant. Et la force de l'explosion pourrait correspondre au missile Badr 3, qui est un missile qui est utilisé par le djihad islamique. Et c'est pour ça qu'Israël n'accuse pas le Hamas. C'est une vidéo qui date de la semaine dernière, dans laquelle le djihad islamique se vante d'avoir ces missiles-là et qui vont tirer sur Israël avec.
Alors, Alan de Neuville, vous en parlez justement dans votre ouvrage. Là, on a un extrait d'LCI avec un ancien militaire spécialisé dans l'aviation, Xavier Tittleman, qui essaye d'éclairer hein, cet hôpital qui a été bombardé. Toute la question est de savoir par qui. Et à ce moment-là, il y a beaucoup d'Ozinters qui se sont jetés dans cette affaire en essayant avec leurs outils de faire la lumière. Et là, on voyait que c'était pas si évident, comme quoi l'Ozint n'est pas forcément la garantie d'avoir une seule explication. Il y a une bataille d'Ozinter.
Oui, exactement. Donc, on est sur l'explosion de l'hôpital Al-Ali qui a lieu le 17 octobre 2023 de mémoire. Donc, 10 jours après les attentats du Hamas en Israël et le début de la guerre. Et en fait, quand on a cette explosion de l'hôpital, il y a une sorte de corrélation logique qui se met en place à se dire ça explose à Gaza, il y a une guerre, c'est sans doute Israël. Et directement, les grands journaux mondiaux titrent en reprenant en fait le discours du Hamas et en accusant Israël, sans forcément citer que ce sont des propos qui viennent du Hamas. Le lendemain, le ministère de la Défense israélienne publie une enquête OSINT. Ce qui est assez marrant parce que en fait, ils font une déclassification. Ils vont montrer vraiment avec les codes visuels de l'OSINT que ça ne peut pas être eux, que c'est forcément un missile du djihad islamique. Et donc, à partir de là, on va avoir une querelle d'OSINTers qui va se réduire en trois camps. Et il faut vraiment aussi se dire que c'est ce moment où on a très peu d'images qui viennent d'Israël. Hein. Il y a un blocus médiatique, donc tous les terrains sont forcément à distance. Et il y aura trois camps qui vont tous utiliser exactement les mêmes documents, la même grammaire visuelle qu'on appelle avec Bérénice Serra une grammaire visuelle de la véridiction. Un camp qui va dire « c'est un missile du djihad islamique » et qui vont vraiment faire des enquêtes aux INT. Un camp qui va dire « c'est un missile israélien » et on va faire des enquêtes aux INT. Et un camp qui va dire « franchement, on ne peut pas savoir ». Il y a eu beaucoup de démentis des journaux ensuite, la BBC, Le Monde, le New York Times, qui avaient couvert en disant « c'est un missile israélien », vont faire des démentis en disant « en fait, on a peut-être été un peu hâtifs dans notre couverture ». Moi, ce qui me semble intéressant, c'est que l'OSINT utilise vraiment ce que j'appelle une grammaire visuelle de la véridiction avec Bérénice Serra, c'est-à-dire que quand ils font des vidéos, les OSINTers partent d'un point A à un point B, comme par fatalité pour vous emmener dans une démonstration quasi scientifique. D'ailleurs, les OSINTers parlent de la reproductibilité de l'enquête, etc., etc. Moi, dans la philosophie des sciences, ça me rappelle la reproductibilité de l'expérience qui valide l'expérience scientifique. Et donc, le problème, c'est que là, des formes visuelles vont soutenir un discours de vérité. Sachant que dans la société, il y a plusieurs régimes de vérité, comme le dit Michel Foucault. La vérité juridique n'est pas la vérité scientifique, qui n'est pas la vérité religieuse, qui n'est pas la vérité journalistique. Et là, les formes visuelles vont tenir un discours de vérité, et il est rarement mis à distance, ce design de la vérité est rarement mis à distance par les OSINTers eux-mêmes, ce qui permet des récupérations par des groupes complotistes, ou en tout cas des vraies controverses médiatiques utilisant l'OSINT comme point d'achoppement.
Alors là, vous soulevez un point intéressant, et c'est vrai qu'en tant que spectateur de vos enquêtes, tous les deux, par exemple, au Monde ou sur Arte, on voit qu'il y a quand même toute une grammaire, toute une esthétique. Par moments, franchement, j'ai l'impression d'être dans un film d'espionnage. On aura un sound design, on va raconter la cartographie, etc. Donc, pour reprendre un peu plus vulgairement ce que vient de décrire Alan, il y a quand même cette idée, de par l'esthétique, de par la grammaire, d'avoir une sorte d'assertion que ce qu'on vous montre, c'est la réalité, par la puissance d'autorité presque de la data, même des choses qu'on ne comprend pas bien, mais on se dit on comprend pas, mais ça a l'air sérieux.
Bon, on espère quand même qu'on comprend, on fait tout pour que les gens en comprennent.
Je comprends.
Je suis d'accord sur l'hôpital Al-Ahli, je m'étais dit exactement la même chose à l'époque, j'en avais même parlé aux journalistes de la rédaction comme un point sur lequel il faut faire attention. Alors encore une fois, c'est pas vraiment ce qu'on fait, nous, on fait pas ce genre d'enquête, mais il faut faire attention à ce qu'on pourrait penser être la toute-puissance de, justement, la méthode OSINT, et les images montrent ça, et en fait, elles disent ça. Et justement, je pense qu'il faut faire attention à ça. Il y a des limites, parfois, on peut pas dire, et là, nos propres limites à nous. Il y a un mème qui est un peu connu, qui est affiché chez nous dans un mème, une image un peu amusante de l'OSINT, où depuis une image satellite, on voyait un passage piéton, et puis sur l'image Google Sat, on voyait un zèbre. C'est un peu ça. Il faut faire attention à ce qu'on voit et comment on vérifie. Et alors sur la façon dont on met en scène, comme vous dites, oui. Alors faut bien comprendre plusieurs choses. C'est que ce qu'on fait nous, par exemple, moi je viens de l'investigation télé. Ce qu'on fait nous aujourd'hui, c'est tout ce qu'on ne pouvait pas faire en télé, ce qui était interdit. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de perso, il n'y a pas de personnage. C'est des tableaux Excel, c'est des colonnes, c'est des zooms.
C'est
pas télégénique. Alors si vous ne mettez pas un peu de musique, un peu de sound design pour aider les gens, c'est compliqué. Plus, c'est des questions techniques. Par rapport à la télé, il n'y a pas d'ambiance, il n'y a pas de son. Donc il faut habiller, il faut quand même que ça, sinon on a une impression de silence. Donc il faut aussi un peu aider. Mais je ne pense pas que ce soit dans l'idée de convaincre, de donner une idée que c'est une toute-puissance de la preuve. Nous, ça réside vraiment dans notre trouvaille et dans ce qu'on veut démontrer, quoi.
Ce que dit Alan de Neuville, c'est plutôt que c'est récupéré comme tel. C'est-à-dire que l'esthétique, le fait établi de la manière dont l'OSINT se met en scène et la scénographie de l'OSINT donne cette impression, effectivement, de vérité un peu absolue, objective. Parce que on comprend bien que même s'il y a des témoignages, il y a une sorte d'objectivation des choses par la data. Et donc, il y a cette récupération de l'esthétique liée à la data qui sert d'argument pour celles et ceux qui veulent faire passer un message ou un discours en employant cet argument d'autorité qui est lié à la technique. Mais Hervé Le Toqueux.
Oui, Bon, moi, mon parcours est plutôt de l'écrit. C'est-à-dire qu'évidemment, à la fois mon historique dans le judiciaire, à Viginum, aujourd'hui à Check First, fait qu'aujourd'hui, on a cette culture de l'écrit et que les démonstrations dont vous parlez, ou ce langage, pour nous, c'est plutôt un langage textuel et moins dans l'image. Ce qui est intéressant avec ce que dit Sylvain, c'est qu'on a souvent le sentiment que ces enquêtes sont montées dans une forme d'urgence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'OSINT a pris une dimension suffisamment importante pour que on ait dans une forme d'urgence à vérifier instantanément des frais, à donner une réponse et quasiment à avoir cette notion de scoop qui pour moi est un danger parce que justement elle mène à une simplification de la démonstration, à des conclusions extrêmement hâtives. Donc ça c'est un sujet.
Même si là on voit bien une différence entre le fact-checking et l'OSINT, c'est-à-dire que le fact-checking, il y a une urgence pour arrêter que la rumeur se propage. On dit attention, c'est délétère, tout de suite il faut dire c'est faux, c'est vrai, alors que l'OSINT effectivement peut prendre plus le temps. Lise Lotmas.
Oui, c'est vrai qu'on a des impératifs de temps sur certains sujets d'actualité où il faut essayer d'apporter de la clarification, mener une enquête rapide sur des événements d'actualité. C'est le cas notamment dans tous les conflits armés en cours à l'international. Sur l'argument disant que l'esthétique de l'OSINT fait un peu argument d'autorité, je pense que ça peut être vrai du point de vue du spectateur. Nous, et je rejoins Sylvain là-dessus, en fait, on est vraiment dans une logique d'essayer de vulgariser au maximum notre propos. C'est vrai que ça peut être des contenus qui peuvent être un peu arides. Voilà, les images satellites, c'est pas nécessairement lisible immédiatement pour tout le monde. On essaye de décortiquer un peu nos preuves. Et donc voilà, il y a un peu un langage forensique, un peu scientifique comme ça, mais qui nous permet de mettre en lumière certains éléments de détail qui nous paraissent intéressants et qu'on veut montrer aux personnes qui regardent nos vidéos.
D'ailleurs, vous expliquez souvent très bien l'un comme l'autre, Arte comme chez Le Monde, la méthodologie que vous avez employée. Il y a un peu toujours cette idée, ce qu'on appelle parfois la boîte noire dans les différents titres de presse. Vous allez expliquer comment vous avez fait, toujours dans cette même logique de transparence pour essayer de préserver la confiance.
Exactement. Donc, chez sources comme Au Monde, on a, je pense, on appelle ça à peu près de la même manière. C'est un document source ou une annexe, voilà, où on va
méthodologie,
où on va détailler ce qu'on n'a pas pu détailler directement dans la vidéo, c'est-à-dire mettre des liens vers toutes les ressources qu'on a utilisées, parfois partager les données directement, toutes les géolocalisations des vidéos qu'on a pu faire. Enfin voilà, ça peut prendre différentes formes. Je pense qu'il y a un double objectif. Le premier, c'est évidemment d'être dans une forme de transparence vis-à-vis de nos lecteurs, de nos spectateurs, pour qu'ils puissent éventuellement s'emparer des différents éléments, les vérifier eux-mêmes, voilà, être vraiment transparent sur notre travail. Et il y a aussi l'idée que tous ces documents puissent ensuite être réutilisés, éventuellement par des chercheurs, par d'autres journalistes, que voilà, ces informations-là, elles circulent ensuite et elles puissent avoir une deuxième vie, une troisième vie, et s'inscrire dans une forme de cycle comme ça d'investigation.
Dans l'idéal d'ailleurs même de l'OSINT, il y a cette idée de pouvoir reproduire l'enquête. Alain Deneville, est-ce que c'est pas un peu un mythe cette reproduction de l'enquête? Alors je sais que la mère ou la grand-mère d'Hervé Le Toqueux peut-être lui a tout appris sur l'OSINT et que c'est sans doute accessible pour elle, mais c'est pas quand même à la portée de tout le monde.
Oui, non, c'est pas à la portée de tout le monde. Et peut-être, juste pour revenir vite fait sur ce qui a été dit avant, moi, je suis très admiratif du travail de Le Monde et de Source, et je pense que, justement, cette grammaire visuelle, elle permet aussi de redorer la confiance des lecteurs avec le journalisme. Donc, il y a des critiques...
Pourquoi la grammaire visuelle permet de redorer la confiance?
Parce que, je vais prendre un exemple tout bête, vous avez un journaliste qui vous dit « Alors, une source anonyme m'a dit que, et vous devez me croire sur parole, la grammaire visuelle mise en place par Source, par Le Monde, par le New York Times, permet de refaire pas à pas et de montrer qu'il y a quelque chose de sérieux derrière, qu'on peut refaire tout ça. » Donc, moi, je pense que c'est quand même un bon avantage, mais qu'il y a des limites qu'il faut prendre en considération. Et ces limites, elles sont aussi des limites sociologiques, des limites économiques. On ne peut pas avoir un nouveau design toujours d'une enquête. On voit que c'est les mêmes acteurs de motion design qui passent de rédaction en rédaction. Donc il y a des vrais...
Alors la motion design, pour bien comprendre, ce sont des gens dont le métier est d'animer, de mettre en mouvement des cartes, des objets à des fins journalistiques. Jusque-là, on va dire que c'était plutôt employé peut-être dans le monde du graphisme, de la publicité ou du cinéma. Et on voit que là, c'est employé à des fins journalistiques.
Ouais. Et pour revenir sur la question de la reproductibilité, je pense que c'est un idéal assez incroyable de se dire qu'on peut refaire les enquêtes. Mais si vous n'avez pas fait vous-même une formation OSINT, si vous-même vous n'avez pas appris comment faire à lire les enquêtes, à comprendre les documents, c'est très dur. Donc c'est une possibilité qui existe, mais il ne faut pas se voiler la face en fait. C'est vraiment quelque chose réservé à une petite élite qui connaît les codes. Ça dépend les enquêtes après. Fact-checker une recherche d'image inversée, c'est assez incroyable. Mais refaire toutes les enquêtes, c'est assez compliqué. Même si les documents vous sont donnés, l'analyse vous est donnée, parce que vous voyez pas forcément les choses. Il y a des corrélations entre les documents et vous devez croire sur parole le journaliste ou la journaliste d'ailleurs qui vous a dit qu'il y avait un lien entre les deux.
Ouais, et puis ça n'en reste pas moins un métier.
Et c'est un vrai métier, quoi.
France Culture, la fabrique de l'information, François Celtiel.
Un métier qu'on tente de décrypter aujourd'hui dans la fabrique de l'information avec Hélène Deneuville, maître de conférence en sciences de l'information et de la communication à l'université Bordeaux-Montaigne, auteur de Osint, enquête et démocratie, avec Sylvain Pack, le rédacteur en chef de Source, l'émission que vous pouvez voir sur la plateforme Arte avec Liselotte Masque, qui est journaliste à la cellule enquête du quotidien Le Monde, et Hervé Le Tocqueux, qui est l'ancien chef de la vision des opérations de Viginum, qui s'attache à veiller à la manière dont différents acteurs étrangers sèment la zizanie, notamment dans notre espace numérique informationnel. On essaye de parler de l'usine depuis le début de cette émission. Hervé Le Tocqueux, on voit qu'il y a aussi une dimension qui est très propre à la transmission, puisqu'il y a quand même une démarche assez citoyenne dans les usines, dans la qualité d'usine. Il y a des formations qui sont proposées à d'autres journalistes, parfois même à des citoyens. Donc il y a quand même ce côté un peu do it yourself où on va donner en fait à certains individus des outils pour arriver à mieux naviguer sur ce genre. Donc une volonté de transmission par rapport au public.
Ouais, bien sûr, c'est essentiel. Bah, on rejoint là cette notion de reproductibilité, c'est-à-dire qu'on essaye de diffuser au-delà des articles, au-delà des sujets, la méthodologie, les outils qu'on utilise. Ces outils périment relativement vite en fonction de l'ouverture de la fermeture des plateformes, de l'ouverture ou de la fermeture des outils qui sont mis à disposition des utilisateurs. Et donc on essaye de transmettre en fait cette expérience. C'est un mouvement qui dure depuis au moins une quinzaine d'années, qui a été initié par Bellingcat, on en parlait au début, qu'Open Facto a repris derrière, que d'autres associations en France, je pense à OSINT.fr, ont aussi transmis. Donc il y a tout cet écosystème en fait qui se cultive avec donc cette idée de transmission. Et d'une certaine façon, de maintenir ce continuum en fait entre les différentes enquêtes et les différentes techniques.
Alors peut-être qu'à une époque où l'OSINT a démarré, donc vous avez évoqué le 2010, on va dire, dans un point de vue médiatique, il n'y avait pas encore le développement de l'intelligence artificielle générative tel qu'on le voit aujourd'hui. Sylvain Pack, quelles sont les menaces de cette technologie-là? Parce qu'elle s'attaque finalement à la source première de votre matériel, c'est-à-dire de la donnée, du data. J'imagine que c'est très simple avec des outils de faire une fausse carte, de créer de la fausse information dès la source.
Oui, alors pour l'instant, nous, on n'y a pas été trop confrontés. On fait attention, évidemment, quand on est sur certaines enquêtes, à toujours se dire quelle est la source de cette image. De toute façon, IA ou pas IA, elle peut être fausse. Elle aurait déjà pu être fausse par ailleurs. Ou qui l'a publiée, mais on sait qu'on va avoir ce problème-là qui risque de se poser chaque jour un peu plus. Et on le voit notamment de manière assez étonnante avec un outil comme Sora, qui a été lancé par OpenAI, donc celui qui a lancé ChatGPT, où là, maintenant, on peut donner nous-mêmes donc c'est une sorte de réseau social de vidéos, de fausses vidéos, de vidéos en IA, où chacun peut donner son image à la plateforme, et chacun ensuite peut se saisir de cette image et en faire quelque chose. Donc, le patron de OpenAI, Sam Altman, a lui-même donné son image. Ça veut dire que un YouTuber comme Thibaut Inchape a lui-même donné son image. Ça veut dire que n'importe qui dans le monde aujourd'hui peut faire une fausse vidéo avec en mettant Thibaut Inchape ou Sam Altman dans n'importe quelle situation.
Là, c'est compliqué. Alors, donc pour vous, c'est ce qu'on appelle un caméo, effectivement.
Un caméo, voilà. Chacun peut donner son caméo. Alors pour l'instant, il y a un petit tag, etc., qui existe, qu'on peut faire disparaître ou pas. Mais à terme, ça va être un problème. Et moi, j'anticipe quelque chose où ça va être que les gens vont donner leur image volontairement. Si vous avez quelque chose à vous reprocher, et puis quand les vidéos sortent, vous dites ah ben non, mais c'est un faux. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc ça, c'est quelque chose sur lequel, évidemment, il faut qu'on fasse attention. Après, nous, comme on travaille sur des enquêtes très particulières, il est peu probable qu'il existe un faux, comme par hasard, là, ou sur, par exemple, la reconnaissance faciale au Kazakhstan, comme par hasard, il y a un faux à cet endroit-là, c'est un peu compliqué, mais on va faire attention à ça.
Mais on sait très bien que la problématique avec l'intelligence artificielle générative, c'est qu'on se met aussi à douter du vrai, donc tout devient peut-être, l'Islot Mass, plus compliqué, plus lent, plus long, avec l'irruption de ces outils d'intelligence artificielle générative.
Oui, nous, c'est quelque chose auquel on n'est pas encore tout à fait confronté maintenant, mais qu'on redoute beaucoup, c'est-à-dire que nous, notre travail il repose essentiellement sur ce qu'on appelle les vidéos amateurs, le contenu généré par les utilisateurs. Donc on va récolter, comme je l'expliquais tout à l'heure pour le Maroc, plein de vidéos filmées par des participants à une manifestation, des témoins, etc. Et là, ce qu'on observe avec ces nouveaux outils, donc Sora, il y a aussi celui de Google qui vient de sortir, c'est que c'est maintenant possible de générer des vidéos et d'avoir par exemple 5 vidéos qui filment la même scène sous différents angles. C'est aussi possible d'enlever tous les artefacts qui étaient connus jusque-là, des mains un petit peu bizarres, des différents mouvements qui pouvaient être
les fameux six
des
doigts,
signes. Voilà, les fameux six doigts par
c'est
exemple.
Fini.
Donc il y a eu un vrai progrès technologique à cet endroit-là. Et nous, ce qu'on redoute beaucoup, c'est de voir désormais pour chaque vidéo, au lieu d'y passer, et je donne des chiffres un peu au hasard, mais au lieu d'y passer une heure, passer peut-être 10 heures. Pour essayer de prouver que cette vidéo n'est déjà pas de l'IA et ensuite la vérifier, la géolocaliser, la chronologiser.
Sachant
etc.
que, mais vous allez me dire si je me trompe ou pas, on n'a pas encore aujourd'hui d'outils imparables qui permettraient assez rapidement de savoir qu'une image a été falsifiée ou non.
Non, ça enfin, à ma connaissance, en tout cas, ça n'existe pas. Et même à l'époque où il y avait des photomontages plus simples faits avec Photoshop, il n'y a jamais eu d'outils imparables qui permettaient de détecter des retouches sur des photos, par exemple. Donc voilà, je ne sais pas si ça va être développé un jour, j'espère, mais oui.
Alain de Neuville, qu'est-ce que c'est que le Dark OSINT? Parce qu'on est finalement dans ces mêmes logiques, c'est-à-dire que l'IA peut être utilisée par des acteurs, et des acteurs malveillants, puis on en parlera dans un instant avec Hervé Le Toque, si ça lui rappellera ses bons souvenirs de Viginum. Mais c'est quoi le Dark OSINT?
Oui, bah déjà l'IA, il faut aussi, il y a pas que des mauvais côtés. Hein. L'IA peut vraiment aider à faire des choses intéressantes pour l'OSINT, et c'est un peu comme l'OSINT, pour super transition avec la Dark OSINT. C'est un peu comme l'OSINT. Il y a une face intéressante de l'IA et de l'OSINT, et il y a des faces, on va dire, sombres. Qu'est-ce que le Dark OSINT? Moi,
juste parenthèse pour prolonger ce que vous venez en train de dire, c'est effectivement l'IA peut nous permettre d'analyser une grande quantité de données, là où Lise Lotmas disait qu'elle pouvait perdre 9 heures, même si c'était des chiffres arbitraires pour essayer de vérifier une image, elle en gagne sans doute du temps pour pouvoir analyser une grande masse de données grâce à l'IA, ce qui avant peut-être était plus complexe. Donc on voit qu'il y a sans doute des avantages. Après, comme on a des biais de négativité, on voit quand même que les effets délétères de l'IA pour celles et ceux qui essaient de s'en emparer restent quand même un outil intéressant pour eux et du moins efficace. Mais le Dark OSINT.
Voilà. Donc le Dark OSINT, moi j'ai écrit le livre comme une contre-enquête de l'OSINT parce que j'étais dans les communautés OSINT, je travaillais beaucoup là-dessus et je voyais un enthousiasme assez incroyable envers l'OSINT, le fait que les citoyens récupéraient du pouvoir sur les dispositifs d'État, contre la surveillance, etc., etc. Et en fait, plus j'avançais et plus je me rendais compte que ça, cette face où on parle souvent des ONG, des universités, des journaux comme Le Monde, des magazines comme Source, en fait, c'était que la face émergée d'un iceberg de pratiques OSINT. Et en fait, il y aurait une face immergée qui, pour moi, serait beaucoup plus importante, qui serait les usages que j'appelle antidémocratiques de l'OSINT. Le stalking, donc traquer une personne en ligne, le doxing, trouver des documents sur cette personne en ligne et la faire chanter pour obtenir des choses ou les mettre sur la place publique. Le terrorisme. Le Monde a fait une enquête sur les terroristes de 2015 du Bataclan. On se rend compte qu'ils ont fait de l'OSINT pour préparer leur attaque. Hein. Les ingérences étrangères, je pense qu'Hervé en parlera mieux que moi. Et en fait, il y a énormément et le complotisme, on en avait parlé. J'en parlais sur le cas de Boutcha dans mon livre. Et en fait, il y a énormément d'usages antidémocratiques de l'OSINT et qui se basent sur le fait que les démocraties libérales sont des espaces ouverts où énormément de documents sont mis en place, la presse est libre, les réseaux sociaux sont libres, l'État donne des données de qualité, contrairement à des régimes autoritaires, et donc on est dans une asymétrie de pouvoir entre des régimes ouverts et des régimes fermés, où les documents sont manquants, où la presse est muselée, etc. etc. Donc parce que l'OSINT est démocratique, se base sur des sources démocratiques, les démocraties sont beaucoup plus en danger sur les attaques de Dark OSINT. Et c'est ça que j'ai essayé de me dire dans ce livre, c'est attention, l'OSINT c'est génial, mais il y a une face sombre, il faudrait peut-être qu'on commence un peu à en parler et à la cartographier.
Voilà, donc intéressant de savoir que nos démocraties sont vulnérables de par les valeurs qui les animent. Vous avez travaillé, Hervé Le Toque, donc je l'ai dit, à Viginum, pour que nos auditeurs et auditrices comprennent bien Viginum, donc c'est une instance donc intergouvernementale, enfin liée à l'État, qui veille à analyser les stratégies d'ingérence, donc des pays étrangers qui cherchent à, pour leurs agendas ou leurs raisons qui sont les leurs, semer une sorte de division au sein de notre société. L'asymétrie dont vient de parler Alan, est-ce que c'est quelque chose que vous avez vécu, subi au sein de Viginum, de se dire bah, finalement on a des outils, mais ça reste des outils qui sont moins puissants que ceux du voisin?
Oui, bien sûr. Alors, je ne peux qu'abonder dans ce que dit Alan, qui l'a très bien théorisé. Dans l'aspect pratique de tout ça, d'abord, une chose, aujourd'hui, on sait détecter encore à l'œil nu, si on a un œil un peu affûté, des images générées par IA, par l'analyse des détails, par la...
Vous savez, à l'œil nu?
Oui, on sait le faire. Il y a des techniques pour utiliser ça. Enfin, pour le faire.
C'est à l'œil nu ou c'est des techniques? Parce que si vous
non,
savez.
C'est à l'œil nu. C'est, mais des techniques à l'œil nu. Enfin, c'est une technique d'observation. On regarde les détails, le flou.
Là, vous avez le projet d'une start-up potentielle. Hein, si vous êtes sûr que vous avez des outils à 100% fiables pour générer, pour être certain de garantir de la véracité d'une vidéo, ça peut intéresser des gens.
Non, mais il y a vraiment des techniques même pour identifier les vidéos Sora aujourd'hui. Je ne dis pas que dans 6 mois, 1 an, ça sera encore plus compliqué. Mais ces vidéos aujourd'hui, elles présentent un inconvénient. Pour résumer, une image capte à travers un dispositif optique quelque chose de préexistant. Or, ces images sont générées de A à Z et donc présentent des défauts, des artefacts qui sont aujourd'hui analysables. J'ai été moi-même victime d'un deepfake dans le cadre de mes précédentes fonctions par un mode opératoire qui s'appelle Matryoshka Overload, dont on entend quelques bribes d'éléments en introduction de cette émission.
Russe,
enfin proche des intérêts de la Russie. Et effectivement, une de leurs techniques, et ça rejoint ce que dit Alan sur le Dark Ozint, c'est réellement d'utiliser les techniques d'Ozinter puisqu'ils vont créer un contenu faux. Et ensuite, les comptes vont diffuser ce contenu. Et ensuite, d'autres comptes vont demander à des rédactions directement sur les réseaux sociaux, par boîte mail, de vérifier ce contenu. Et donc, on voit très très bien que nos adversaires ont tout à fait compris le code de fonctionnement des démocraties, les codes de fonctionnement de l'OSINT, se le sont appropriés, et ce n'est pas facile à dire, afin de l'utiliser comme d'une arme, d'une certaine façon. Donc aujourd'hui, cette notion de Dark OSINT, elle me semble particulièrement intéressante à appréhender, elle est peu faite et voilà. Ça nécessite, et c'est vraiment le dernier point, pour les OSINTers, une adaptation finalement constante de ce qu'on sait faire, parce que je parlais de la péremption des outils tout à l'heure, mais ces nouvelles techniques, elles nous obligent aussi à faire ce petit déplacement, ce pas latéral pour pouvoir mieux répondre à ces dangers.
Sylvain Pack.
Oui, juste pour rebondir sur la symétrie entre démocratie et régime autoritaire, je trouve que ce qui est intéressant aussi dans l'OSINT, c'est que ça nous a permis, à contrario, de parfois détourner la propagande des régimes autoritaires et d'utiliser l'OSINT pour détourner ça. On l'a fait sur le Kazakhstan, on a fait une enquête sur la reconnaissance faciale au Kazakhstan. On s'est basé beaucoup sur des vidéos publiées par le ministère de l'Intérieur qui faisait de la propagande pour dire à sa population « Regardez, on met la reconnaissance faciale en place pour arrêter les criminels ». Ce qu'ils n'avaient pas prévu, c'est que nous, on allait les regarder pendant des heures, s'arrêter image par image, pour regarder en fait qui était présent comme logiciel, découvrir qu'en fait, à travers une petite icône tout en bas, c'était des logiciels occidentaux, d'une part. D'autre part, aller sur les réseaux sociaux, trouver des arrestations de personnes qui n'étaient pas des criminels, mais qui étaient des opposants politiques, parce que c'est un régime autoritaire, qui filmait leur arrestation. C'est assez incroyable, ils filment leur arrestation grâce à la reconnaissance faciale. Et nous, ensuite, on a fait une enquête pour montrer qu'en fait, des entreprises occidentales participaient et avaient vendu leur système de reconnaissance sociale à ce régime autoritaire qui ensuite arrêtait des opposants. Et là, on a exploité beaucoup de propagande parce que ces gens-là, ils ne produisent pas rien. Ils produisent aussi quelque chose de la propagande qui, parfois, on peut nous aussi exploiter.
Hervé Le Toqueux.
Utiliser ces outils, enfin, aujourd'hui, s'adapter, c'est aussi utiliser des nouvelles techniques ou utiliser ce qu'on sait faire dans des champs un peu inexplorés. On a produit une analyse au début de l'année sur les médailles commémoratives militaires.
Vous dites on, c'est qui?
Check First. On a produit, elle est librement accessible sur notre site internet, vous inquiétez pas, c'est gratuit. Et cette enquête, en fait, elle utilise les médailles commémoratives russes des unités militaires, qui sont produites par, c'est des pins, en fait, en gros, des gros pins. C'est chercher les fabricants, chercher les places de marché où les gens s'échangent ces collections de pins pour géolocaliser et identifier un centre du FSB, donc unité de renseignement militaire. Donc en fait, cette adaptation, retourner, j'aime bien cette idée de retourner les éléments contre eux et de se servir nous-mêmes de l'OSINT comme une arme, c'est vraiment pertinent.
Liselotte Mass, est-ce que c'est pas plus dur néanmoins de faire l'OSINT maintenant, une fois qu'on a compris que ces acteurs-là avaient identifié certaines mécaniques qui pouvaient se retourner effectivement contre les journalistes eux-mêmes ou contre, on va dire, les garants d'une information fiable? Est-ce que c'est pas plus dur d'obtenir des données qui sont peut-être un peu moins ouvertes qu'avant, à une époque où il y avait peut-être une sorte de laisser-faire par manque de vigilance?
Oui, c'est vrai qu'on remarque, notamment en ce qui concerne les sujets un peu sensibles de type conflit armé, le réflexe, compris un certain nombre de belligérants, de flouter tout une partie des images qu'ils produisent. Donc c'est des images de propagande sur des actions militaires. Et typiquement, la ligne d'horizon, les bâtiments au loin vont être floutés. Et ça, on voit bien que c'est une tentative de ces acteurs-là d'empêcher la géolocalisation des images. Alors, principalement, je pense, pour empêcher la partie adverse de déterminer où ils sont, mais aussi parce qu'ils ont remarqué dans les médias et sur les réseaux sociaux que voilà, il y a plein de journalistes ou d'analystes amateurs qui s'amusent, entre guillemets, ou qui passent leur temps à géolocaliser ces images, et donc ça peut être un risque pour eux. Donc ça, c'est l'une des réactions qu'on a observées face à l'accélération un peu de la pratique OSINT en ligne. Et il y a bien évidemment, dans plein de pays, une sorte de retour en arrière sur l'ouverture des données, notamment commerciales, par exemple.
Est-ce qu'il n'y a pas aussi un autre risque, alors je ne sais pas s'il est réel ou pas, on l'a évoqué tout à l'heure, le fait qu'on pouvait donner aux citoyens la possibilité d'avoir ces outils-là pour reproduire les enquêtes, d'avoir des citoyens qui se mettent à faire de l'OSINT, qui vont eux-mêmes enquêter, pourquoi pas, sur des groupes plus ou moins dangereux, je pense notamment au groupe Wagner à l'époque, et qui vont peut-être compromettre certaines informations en tentant de manière un peu amateur à faire de l'OSINT.
Je pense que ça dépend beaucoup de la façon dont c'est fait, des règles éthiques qui sont en place et de la méthodologie. C'est vrai qu'il y a plein de dérives sur ces pratiques OSINT amateurs.
Hervé Le Toqueux.
C'est une vraie question. On l'a vu au début du conflit en Ukraine, par exemple, où on voyait des gens géolocaliser des chars qui tiraient sur des particuliers. Donc, en tentant cet exploit de géolocaliser un tank, en fait, ils mettaient en danger la personne elle-même. Donc, ça, c'est un vrai sujet.
Oui, bien sûr. C'est la question de la responsabilité et du regard et du recul qu'on peut éventuellement prendre face à ces images qui nous parviennent et se poser en fait la question, est-ce que c'est utile et est-ce qu'on apporte une information nouvelle intéressante et qui met en danger personne en faisant cette investigation ?
Alain de Neuville ?
Oui, et je pense qu'il ne faut pas forcément cette question de la dark OSINT qui n'est pas forcément internationale, qui peut être locale, et cette question des usages délétères de l'OSINT à l'intérieur même, par exemple, de la France peut se poser. Par exemple, vous avez des collectifs qui vont aller traquer des pédocriminels, et en fait, en le faisant, ils peuvent corrompre des enquêtes de la justice qu'ils sont en train de mener parce qu'ils mettent un vice de forme dedans. Donc en fait, il y a quelque chose auquel moi je suis très attaché, qui s'appelle l'état de droit, et il faut peut-être essayer de voir aussi comment l'OSINT ne doit pas rentrer en contradiction avec l'état de droit. Ce qu'on voit souvent dans les communautés OSINT, où il y a quelqu'un qui dit « j'ai trouvé tel sale type, je vais vous balancer tous ces documents, il faut qu'on fasse quelque chose ». Et en fait, on se rend compte que non, il y a des usages et des éthiques de l'OSINT, comme le dit Lizelotte, qui doivent être mis en place.
Je crois que vous faites référence notamment à un youtubeur qui s'appelle Ludoc et qui avait fait tout un parcours par rapport à la pédocriminalité. Et donc, il avait filmé toute son enquête. Et de lui-même, il était déçu de savoir qu'il avait créé un vice de forme derrière lequel le criminel a pu se réfugier. On évoquait tout à l'heure avec Hervé Le Toqueux l'Ukraine. On va y rester, on va y revenir même en Ukraine avec vous, Sacha Mitchell, journaliste à Courrier International, puisque vous allez nous expliquer en quoi le recours à l'OSINT peut être utile pour aider à définir la ligne de front, hein, c'est l'actualité, et qui est cette ligne particulièrement mouvante ces derniers temps.
Oui, le brouillard de la guerre s'épaissit à mesure que l'hiver gagne du terrain dans l'est de l'Ukraine. Avant de négocier la paix et d'entériner un éventuel gel du front, Kiev et Moscou veulent à tout prix revendiquer un maximum de gains territoriaux. Résultat, nous dit le Kiev Independent dans un article au long cours, délimiter avec précision la zone de contact entre Russes et Ukrainiens devient de plus en plus difficile et de plus en plus politique. Cas emblématique, celui de Pokrovsk, où les combats font rage depuis plus d'un an et demi. La chute de cette ville clé de la région de Donetsk a été annoncée par le Kremlin début décembre, une information démentie dans la foulée par Kiev, qui s'accrochait alors à quelques poches de résistance. Face à ces déclarations contradictoires, les Sosinteurs cherchent à dissiper la brume. Leurs cartes du terrain, scrutées par les analystes militaires et les journalistes, sont des ressources précieuses. Elles sont accessibles à tous en ligne et mises à jour quasi quotidiennement. On y voit une certaine couleur pour les territoires contrôlés par les Ukrainiens, une autre, le rouge par exemple, pour les zones prises par l'armée russe.
Alors comment s'y prennent-ils concrètement ?
Alors je parle sous le contrôle de vos invités, François, mais à l'ère des réseaux sociaux, cette guerre elle est quasiment diffusée en temps réel sur Internet. Les spécialistes de l'open source écument donc les plateformes, en particulier la messagerie Telegram, à la recherche d'images récentes du front. Ça peut être une frappe de missile filmée par un habitant, des images captées par un drone militaire ou la vidéo triomphale d'un soldat entré dans une localité qui vient de tomber. L'enjeu, c'est d'abord d'authentifier les informations collectées, puis de les comparer avec les déclarations des responsables militaires, par exemple, ou les images satellites. Ce travail, qui consiste à recouper l'information, en fait, il est primordial avant de mettre à jour une carte, nous dit le Kiev Independent. Est-ce qu'un drapeau russe planté au milieu des ruines signifie qu'une ville est forcément tombée ? Eh bien non. Les troupes du Kremlin ont souvent recours à des petits groupes d'infiltrés chargés d'aller hisser les couleurs nationales en zone ennemie. En gros, c'est pour le coup de com'. Et pareil côté ukrainien. Retourner mettre la bannière bleue et jaune en territoire perdu permet aux autorités de donner l'illusion d'une reprise en main.
Et c'est ce genre d'action coup de poing qui brouille la ligne de front.
En partie, oui. On est dans une guerre d'attrition. Et donc, ces opérations, elles contribuent à gommer le no man's land entre les forces ennemies, selon le Kyiv Independent. L'infiltration, elle ne sert d'ailleurs pas seulement à planter des drapeaux. Elle est pratiquement devenue la norme pour les assauts russes à la place des offensives de blindés. Pour schématiser, les Russes profitent des difficultés de recrutement actuelles de l'armée ukrainienne pour s'engouffrer entre les positions qui sont de plus en plus clairsemées. Des petits groupes de 2 ou 3 soldats camouflés évitent la première ligne et attaquent en profondeur. Leur but, c'est clairement de semer le chaos. Comme l'explique le Kyiv Independent, on se retrouve alors avec des lignes ennemies qui se chevauchent, s'empilent les unes derrière les autres au point que la situation devient illisible. Sur les cartes des Osinter, ces vastes zones sont souvent grisées. Difficile de dire qui contrôle réellement quoi.
Alors c'est une source que vous utilisez souvent, le Kyiv Independent, je le dis bien moins que vous, pour couvrir la guerre en Ukraine.
Alors c'est assez rare, je vous avoue, François. Lancé quelques mois avant le début de la guerre, fin 2021, le Kyiv Independent est un journal en langue anglaise. Donc c'est une publication qui s'adresse plutôt aux lecteurs étrangers. Ce qu'on préfère donner à voir dans nos pages et sur notre site, nous, c'est le ton des médias en langue ukrainienne. On veut savoir ce qu'ils racontent aux citoyens du pays. Même chose en Fédération de Russie. On s'appuie à la fois sur les journaux fidèles au Kremlin, avec une contextualisation indispensable du discours, et aussi sur les médias en exil. Beaucoup ont été créés depuis le début de la guerre, en Allemagne, en Lituanie et en Géorgie. Mais pour ce type de sujet complexe, qui nécessite de prendre un peu de recul, le Kyiv Independent pour se révéler très précieux. Sinon, bien sûr, à la rédaction, on jette un œil tous les jours aux cartes des Osinter et des organismes indépendants. On peut citer AMK Mapping, Deep State et surtout l'Institute for the Study of War. Ces cartes, elles disent rarement la même chose. Deep State, par exemple, c'est une plateforme ukrainienne qui rechigne à montrer les avancées russes, mais elle nous aide au moins un peu à nous repérer dans le brouillard de la guerre.
Merci beaucoup, Sacha Mitchell. Une chronique à retrouver sur le site de Courrier International et bien sûr de Radio France, puisqu'on parle de Courrier International et différents journaux et médias dans le monde. Est-ce qu'il y a une forme de collaboration des journalistes aux Inter dans différents pays, comme on peut le voir avec d'autres initiatives, ou est-ce qu'il y a une concurrence entre aux Inter du monde entier, Liselotte Mas, Sylvain Pack?
Alors, c'est vrai qu'on va avoir rarement des collaborations entre différents services OSINT, par exemple en France, mais ça nous arrive très régulièrement de nous mettre en consortium. Donc faire un consortium, c'est regrouper plusieurs médias internationaux qui vont travailler ensemble et enquêter ensemble sur une thématique. Donc là, ça par contre, ça nous arrive assez souvent de participer à ce genre d'initiative.
Sylvain ?
Nous, pour l'instant, on l'a assez peu fait. On a eu une collaboration sur le premier épisode qui était justement pas de l'Osine, c'était des leaks sur Wagner. Mais on le fait assez peu parce qu'on a aussi, nous, des contraintes de diffusion qui fait qu'on peut... Enfin, en gros, un média comme Le Monde, quand il est prêt un peu...
Il peut publier en télévision, nous, c'est plus compliqué.
Il faut qu'on fabrique, c'est compliqué. On a un épisode par mois avec plusieurs dans le pipe, comme on dit. Donc, si on dit à nos collègues du consortium, attendez, nous, c'est dans 3 mois, on n'est pas prêt, ça va être compliqué. Donc,
voilà. Mais le temps parfois peut être un avantage justement pour certifier de l'information et vous le prenez comme tel. Alain Deneville, est-ce que finalement l'OSINT n'est pas aussi un bienfait pour faire prendre conscience à tout le monde et notamment aux concitoyens, peut-être aux jeunes qui ont une pratique encore plus forte sur les réseaux sociaux, des traces que nous laissons tous dans notre navigation sur Internet?
Oui, ça me semble important. Moi, j'enseigne l'OSINT à l'université et c'est ce que je dis à mes étudiants. En fait, je veux pas forcément faire de vous des enquêteurs. Je veux que vous puissiez voir les traces que vous laissez et comprendre aussi comment fonctionne une enquête. La première chose que je fais avec mes étudiants, c'est je les fais enquêter sur leurs parents. Je pense que c'est pas très éthique, mais ils voient toutes les traces que leurs parents laissent. Ça permet justement aussi de prendre conscience de tout ça. Et puis moi, je pense aussi que l'OSINT, fondamentalement, ça aide à développer un esprit critique. On a des documents, on doit examiner les liens qu'on fait entre ces documents, on doit bien les analyser. En fait, enseigner l'OSINT, ce n'est pas juste enseigner à devenir enquêteur, c'est enseigner une palette de choses hyper importantes pour comprendre et avoir une résilience contre la désinformation, les ingérences étrangères, former son esprit critique, et tout ça me semble très important. Je voudrais peut-être juste revenir rapidement sur la question de l'internationalisation. Mmh. Il me semble encore aujourd'hui que l'OSINT, ça reste quelque chose de très occidental. Il y a des médias qui existent un peu partout aussi, qui existent, mais il y a peut-être des collaborations universitaires, de transfert de savoir et de méthodes qui pourraient être envisagées de manière internationale avec les pays dits des Sud. Moi, je suis spécialiste du Brésil, donc j'aimerais beaucoup de choses qui se fassent avec le Brésil ou l'Amérique latine en général.
Voilà, c'est un appel, mais je reviens maintenant à ce que vous disiez avec vos étudiants. C'est quand même un peu périlleux de laisser vos étudiants enquêter sur leur propre famille. Peut-être qu'ils vont découvrir des frères ou des sœurs cachés. Dans le cas, vous prenez des risques, Alain Deneville. Merci à tous de nous avoir accompagnés sur cette émission sur l'OSINT. On a essayé de mieux comprendre les contours de cette pratique journalistique passionnante et de ces défis qui sont aujourd'hui les siens à l'heure de l'intelligence artificielle générative notamment. Alain Deneville, je renvoie donc à OSINT, Enquête et démocratie, aux éditions de l'INA, Liselotte Mass et bien au site du Monde. On peut retrouver toutes vos enquêtes en vidéo. Vidéo toujours avec vous, Sylvain Pack, et l'émission Source que je recommande. Très bonne émission sur le OSINT. Et Hervé Le Tocqueux, donc, qui est parti du côté de Check First, une société finlandaise. Merci à tous. Merci à Sacha Mitchell de Courrier International, à Joséphine Reynard à la préparation de cette émission comme chaque semaine, Sorge Leroy à la réalisation. Et encore une fois, chers auditeurs, auditrices, joyeux Noël.